Latchodrom, toujours au Rajasthan, le pays d'origine des gitans, des tziganes, dont nous parlons aujourd'hui dans Remue Ménage, Onde Femme, Radio Zone 93.8, en compagnie de Sophie Barré. Sophie, alors, vous allez nous entraîner maintenant très concrètement dans la vie d'un camp gitan, parce que vous avez pu y aller, vous y avez vécu, vous pouvez nous dire un petit peu comment ça se passe. Là aussi, on va devoir combattre certainement certains préjugés, peut-être en confirmer certains, parce que c'est la vie, c'est comme ça, c'est la vie que mènent les gitans aujourd'hui. Et tout au long de ce que vous allez nous raconter, on va discuter de ces choses-là, parce que on sait bien que des mythes horribles circulent sur les gitans, c'est des voleurs, c'est des voleurs d'enfants, alors qu'on leur a volé leur enfant, nous, c'est des heures de bonne aventure, ça c'est autre chose, mais on ne sait pas quand on donne sa main qu'est-ce qui va nous arriver à celle qui va nous prédire l'avenir. Bref, beaucoup de choses circulent. Et puis vous avez eu la chance, vous êtes allé dans les camps, vous pouvez nous raconter. Puis il y a tout leur mode de vie, la hiérarchie, la place des femmes, tout ça, l'ancien dont on connaît si peu de choses et qui serait bon de découvrir avec vous. Alors, comment tout simplement se passe la vie dans un camp? Là, quand vous dites un camp, on dit un camp, c'est vraiment les roulottes. C'est
absolument.
Donc pas là, on ne parle pas de ce qu'on disait tout à l'heure, les gens sédentarisés. C'est ceux qui sont sur la route.
Absolument, oui. Bon, j'ai eu l'occasion d'approcher un camp gitan à Manosque, qui est un camp fixe, en fait, où les gens vivent toute l'année. Bien sûr, ils partent, ils voyagent, mais ils reviennent, c'est leur point de chute. Et puis, j'ai eu l'occasion aussi de pénétrer lors des fêtes de Sainte-Marie de la Mer dans cet immense camp qui est organisé le long de la plage. Et là aussi, il faut montrer, bien que ce soit un lieu public, il faut montrer patte blanche parce qu'on peut pas tellement rentrer là-dedans non plus sans être accompagné par des gitans, parce que sinon, on se fait regarder de travers et quelquefois expulsé. Donc, à Manosque, j'y suis allée par l'intermédiaire de mes amis musiciens qui ont leur famille, qui campent là-bas et qui ont des roulottes. Bon, c'est certain que aussi dans le monde des gitans, il y a aussi la hiérarchie. Il y a les gitans qui sont un petit peu fortunés, qui ont réussi. Ce sont surtout ceux qui trafiquent l'or, ceux qui ramassent la ferraille, ceux-là sont assez riches. Certains sont même millionnaires, d'après ce qu'on m'a dit.
Puis ça se marque comment, alors, leur richesse?
Ils ont de très, très, très belles caravanes. Et d'ailleurs, ils étaient très heureux de me montrer ça. Ils ont acheté une caravane, ils l'ont fait meubler en Louis XV.
C'est une caravane contemporaine, comme
absolument,
celle qu'on peut voir dans les camps d'été.
Oui, tout à fait. Mais alors, dedans, c'est absolument luxueux. C'est un petit palais. Avec des moquettes, la télévision, les magnétoscopes, des très jolis objets, et c'est pas du tout la misère. Et puis vous avez peut-être 20 ou 30 mètres plus loin, au contraire, une vieille roulotte qui, dans le temps, était vraisemblablement traînée par des chevaux, avec des roues en caoutchouc. Et là-dedans, vous avez toute une famille qui vit d'une manière très précaire, et qui a des moyens beaucoup moins évidents que les voisins, parce que eux n'ont pas trouvé le bon créneau pour ramasser un peu de sous. Bon, les femmes en général partent pour faire les lignes de la main, comme vous le mentionniez tout à l'heure. C'est surtout les femmes qui travaillent, en fait. Dans certaines familles, les hommes qui ont un petit métier, donc qui sont vanniers ou chaudronniers ou qui ramassent les bijoux, les vieux bijoux en or cassés, ceux-là vivent bien. Mais ceux qui n'ont pas trouvé un petit métier, qui vivotent un peu au jour le jour, pour eux, c'est beaucoup plus dur. Donc, ils envoient leurs femmes chiner, ce qu'ils appellent chiner. Alors, chiner, ça consiste justement à aller aborder les gens dans la rue pour leur faire les lignes de la main ou leur raconter un petit peu leur vie et leur faire les cartes aussi, les tarots et tout ça. Alors, évidemment, ces femmes, elles sont dressées très jeunes à ça, toutes petites, et elles ont une psychologie incroyable. Elles savent deviner exactement, parce que quelquefois les gens sont un peu crédules et d'autres disent, mais en fait, comment est-ce qu'elle a pu savoir que j'avais ça dans ma vie, Elle est tombée juste, et en fait, si elle m'a prédit du bonheur ou du malheur, les gens y croient. Et en effet, c'est vrai. En fait, c'est vrai parce que c'est ces femmes, par deux ou trois questions, par votre façon d'être, votre façon d'être habillée, votre comportement, vos réactions à leurs questions, elles savent un peu qui vous êtes. Elles savent vous deviner et elles vous amènent à parler inconsciemment de votre vie privée sans que vous vous en rendiez compte. Et finalement, elles savent très bien trouver les points qui vont vous toucher et vous aiguiller. Et en fait, à chaque point qu'elle trouve, elle dit, tu vois, j'avais raison, tu vois, c'est ça, tu vas faire ci, tu vas faire ça, t'as ce problème-ci, t'as ce problème-là. Si tu me donnes 20 francs ou si tu me donnes 50 francs, je t'en donne plus. Alors, vous donnez 50 francs pour...
Une psychologue sans formation psychologique.
Absolument, mais elles sont incroyables. Moi, j'ai essayé une fois pour faire le test de marché dans le jeu, et elle m'a plumé de 200 ou 300 francs parce que je voulais voir jusqu'où elle allait, mais si j'avais continué, c'était 500 ou 1000 francs qu'elle me prenait.
On parle d'argent français quand même.
Oui, oui, tout à fait.
Précise encore.
Elles sont vraiment très, très, très adroites. Mmh. Et bon, c'est un petit peu la rivalité justement entre familles, à savoir quelle est la meilleure, quelle est celle qui va ramener le plus à son mari le soir.
Mais qu'est-ce qui fait qu'ils restent à un endroit ou qu'à un moment donné, ils s'en vont? Parce que vous disiez, bon, Manosque, apparemment, c'est un campement fixe, mais dans un autre, ils s'en font quand même. Qu'est-ce qui fait qu'ils se déplacent?
C'est-à-dire que, bon, Manosque est un campement fixe, c'est un endroit où ils sont tranquilles, où on ne les ennuie pas. Et ils sont en fait par famille, ils sont en famille, là. Et ils aiment bouger pour voir du pays. Simplement pour voir autre chose, avoir un autre décor, aller au bord de la mer. Et puis, pour les hommes, ça consiste aussi à aller visiter des greniers, à chercher des vieux objets. Pour les femmes, avoir aussi une autre clientèle pour dire la bonne aventure. Parce que si elles restent tout le temps dans le même coin, c'est sûr que petit à petit, la clientèle s'épuise. Et il faut aller ailleurs pour trouver d'autres gens, pour justement essayer de pouvoir, à droite, à gauche, grappiller un peu d'argent ici ou là.
Et les hommes, vous disiez, ils ne travaillent pas souvent, mais ils prennent de temps en temps ces travaux qu'on associe souvent justement aux gitans, que ce soit les aiguiseurs de couteaux ou de ciseaux, ou justement la récupération d'objets. Mm-hmm. Parfois, je suppose, s'engagent aussi peut-être comme employés agricoles à la journée, j'en sais rien, tous ces boulots qui font qu'on peut s'engager jour après jour et pas fixe.
Oui, oui, de toute façon, les engagés fixes, pour eux, ce serait l'angoisse. Hein. Ils ne peuvent pas physiquement s'engager fixe dans un travail, ça les étouffe. Ils ne peuvent pas parce qu'ils ont besoin. Ils ont tellement besoin de liberté, de pouvoir agir à leur guise quand ça leur chante. C'est un petit peu le problème avec ces gens-là. Moi, j'ai rencontré ce problème avec les musiciens. Même avec les musiciens qui pourtant aiment la guitare, aiment leur métier, tout d'un coup, ils n'ont plus envie de jouer. Vous avez signé des contrats, vous vous retrouvez, hop, plus de musiciens, ils s'envolent, ils prennent le train ou ils prennent leur caravane et ils repartent ailleurs ou revoir la famille. Ils sont comme ça et on ne peut pas les attacher. Et ça, c'est assez difficile à vivre.
Je comprends que parfois, le monde des gadgets et des tigres a de la peine à se rencontrer dans ces circonstances quand on vit un appel tellement fort pour la liberté.
Absolument. Ils ont du mal à vivre aussi en appartement. Ils aiment être dehors. Ils aiment vivre dehors. Même ceux qui sont en appartement, ils ont besoin d'être dehors. Ils ont besoin de sortir, aller dans la nature. C'est leur vie. Ils ont énormément de mal à rester enfermés.
Alors, on dit souvent qu'il y a des rapports sociaux très forts et très durs. On s'imagine ça. Hein? Il y a, entre les hommes et les femmes, c'est un peu l'image qu'on a des fois. Est-ce que vous avez senti cette hiérarchie dans le camp? Et est-ce qu'il y a un chef, par exemple? Est-ce qu'il y a cette notion du plus fort, celui qui domine?
Oui, oui, tout à fait. Oui, oui. Il y a toujours... pas vraiment un chef, mais il y a une hiérarchie entre les anciens, entre les parents et les plus jeunes, que ce soit la même famille ou pas. Mais les plus jeunes doivent respecter énormément les anciens. Par exemple, moi, j'ai vu des scènes qui m'ont étonnée, c'est-à-dire qu'on prépare un grand repas et on laisse manger d'abord les anciens. Les jeunes sont à l'écart, ils attendent que les anciens aient fini pour pouvoir, eux, de nouveau s'approcher de la table et commencer à manger. Dans les roulottes, par exemple, les anciens ont la priorité. Si une femme se lève, disons, de la famille, par exemple, les femmes les plus jeunes se lèvent le matin, elles doivent d'abord être réveillées avant leur mari. Elles doivent se préparer, devenir jolies pour être agréables quand monsieur se réveille. Ça, c'est un petit peu le côté machiste.
À peine.
Et puis ensuite, avant de s'occuper de son propre ménage, elle doit aller dans la caravane des anciens, les aider à faire la toilette, les aider à s'habiller, leur préparer leur déjeuner, nettoyer leur caravane. Et après, elle peut revenir dans sa caravane pour s'occuper de son mari et de son ménage. C'est comme ça, ça doit être respecté de cette façon. Si elle ne le fait pas, elle est au banc de la tribu.
Et pour continuer alors à parler des femmes, puisqu'on est en train d'en parler, Sophie, est-ce que pas dans, dans ce qui est les événements de la vie de tous les jours, le fait de choisir ce qu'on a envie de faire, le fait de, d'aimer qui on veut, de, est-ce que ça, c'est des choses qu'une femme peut faire ou elle est soumise à toutes sortes d'autorités et qui fait qu'elle-même n'a pas le choix dans le monde cigane ?
Oui, oui, elle est plus ou moins soumise à... Il faut que... Bon, d'abord, les jeunes filles sont mariées très jeunes. Hein. Elles sont mariées à 13, 14, 15 ans parce qu'elles doivent être impérativement vierges lors de son mariage. Donc, comme ce sont des gens qui ont le sang chaud, on évite les accidents en les mariant très très jeunes. Alors, après ça, une fois qu'elle est mariée, elle a davantage de liberté. Mais il y a un sentiment de possession du mari sur la femme et elle ne peut absolument pas faire ce qu'elle veut. Elle doit impérativement obéir à son mari. Ça, elle ne peut pas sortir comme elle veut, elle ne peut pas aller où elle veut quand elle veut. Ça, c'est exclu. Elle doit passer par les caprices du mari un peu.
Enfin, ça, c'est évidemment pas l'image que donne la gitane ou la tzigane. Elle est aussi l'emblème de la liberté quand on dans les images mythiques.
Oui, bon, disons qu'à la maison, elle fait un petit peu la loi dans la caravane, mais à l'extérieur, absolument pas. Absolument pas. Non, non. Elle doit pas faire de faux pas, parce que là, alors, ça devient très grave. Elle est bannie.
Dans un des films qui sera montré lors de ce festival, j'ai lu le résumé, puisque je n'ai pas lu le film, je n'ai pas vu le film avant. Je crois que vous ne l'avez pas vu non plus, Sophie, vous m'avez dit. Mais qui s'appelle Un anima divisa in due, une âme déchirée, il est réalisé par un réalisateur suisse qui s'appelle Silvio Soldini en 1993. Non, pardon, je me trompe de film. C'est pas de celui-là que je voulais vous parler. Excusez-moi. Ça s'appelle Les Tziganes montent au ciel. Vous le connaissez celui-là?
Non, non, pas celui-là. Non.
Réalisé par un ex-soviétique, Émile Lotianou, et qui raconte justement le rapport justement entre un homme et une femme. Un homme est éperdument amoureux d'une femme et qui va finir par l'assassiner parce qu'elle exige qu'il se soumette à lui dans un premier temps et devant le clan. Mmh. Ça veut dire quoi ce genre? Vous avez vécu ce genre de rapports particuliers qui peuvent arriver à des gestes aussi dramatiques que l'assassinat?
Personnellement, non. Heureusement pour moi, je n'ai pas vécu ce genre de situation dramatique. Mais je sais qu'il y a des rapports très forts entre mari et femme. Et que, bon, quelquefois, ce sont les femmes qui... Bon, les gitans aiment les femmes. Hein. Ils sont très fleurs bleues. Et souvent, ils ont une femme... Donc, ils ont une femme gitane, très souvent. Et ils ont une gadje, une paille, ce qu'ils appellent une paille. Un paillou pour un homme et une paille pour une femme. Donc, ils ont très souvent des maîtresses. Et ça, les gitanes le savent, mais elles ne veulent pas en entendre parler. Et si elles rencontrent leur mari avec une femme, elles peuvent devenir très, très violentes. Moi, j'ai vu des femmes avec des paires de ciseaux pour crever les yeux qui couraient après la maîtresse en question pour leur crever les yeux. Et il y a des scènes assez... C'est vrai qu'elles sont violentes. Elles sont très jalouses. Mais bon, c'est réciproque. Les maris sont très, très jaloux aussi. Mais bon, jusqu'au meurtre, je ne sais pas. Moi, personnellement, je n'ai pas vécu ça. Mais c'est sûr que j'ai vécu des scènes là-bas en Camargue où les gitans étaient là avec leurs petites amies et ils avaient toujours l'œil ou l'oreille attentive pour savoir s'il y avait des taxis qui arrivaient parce qu'ils avaient peur que les taxis soient complets avec deux ou trois de leurs femmes respectives. Et ils avaient très peur. En fait, les petites amies étaient cachées dans une pièce derrière. On n'osait pas trop les montrer.
Mais vous me disiez, Sophie, que la vie des femmes est très dure. Hein, quand on s'est dit quelques mots hier soir dans le hall de l'Alhambra, me disait « Ah oui, la vie des femmes, c'est très dur ». Pourquoi vous me disiez cela? Qu'est-ce qui vous a frappé?
Disons que la vie des femmes est très dure d'abord à cause des conditions dans lesquelles elles vivent. Parce que vivre dehors en été, c'est très agréable, mais vivre dehors en hiver, avec le gel, la neige, le froid, suivant les régions où elles sont, faire la lessive dans de l'eau glacée, c'est pas toujours facile. Et puis, bon, il y a aussi le problème de nourriture. Comme je vous disais, souvent, ils n'ont pas de quoi manger et ils sont obligés de voler. Donc, ce sont les femmes qui font ça, ce ne sont pas les hommes. Ce sont elles qui vont chiner, ce sont elles qui vont ramener l'argent. Et les hommes, quelquefois, boivent et ils ne sont pas très tendres, ils les battent. Elles ont quelquefois la vie difficile, ça c'est sûr.
Donc finalement, les tziganes ont le statut des gens les plus pauvres dans le monde. Hein, et effectivement, voler n'est jamais que souvent ce que
survivre.
Font la survie pour survivre. Ouais, ouais, exactement.
Oui, ouais, tout à fait. Et bon, les gitans que j'ai aidés, donc au point de vue musical, ils volaient au début et ils le faisaient pas par plaisir, ils le faisaient par nécessité. Et je dois dire que maintenant qu'ils ont les moyens, qu'ils ont bien gagné leur vie, qu'ils continuent à faire des concerts un peu partout, ils ne volent plus, c'est fini, ils le font plus. Donc c'est pas vraiment un vice inné en
inscrit
eux.
Inscrit dans le sang.
Non,
quoi.
Non, pas forcément. Quand ils peuvent s'en passer, ils le font très volontiers.
Alors, on va écouter une très belle chanson qui toujours est tirée de ce magnifique film Lachodrome, que bien sûr vous pourrez découvrir aussi dans ce festival, mais que vous avez sûrement déjà vu, chers auditrices et auditeurs, du moins nous l'espérons pour vous. C'est une femme qui chante, c'est Mariska, et le titre de la chanson c'est Auschwitz. Nous vous rappelons que plus de 500 000 tziganes ont été persécutés et exécutés par les nazis lors de la Deuxième Guerre mondiale. Deo doi beshel mropirano Beshel beshel gondoline Io io premande povestere Ia io da calo ciricloro Li gial mange mroli loro Lijali jamra romnya ke yoy hoy me beshav u shvitsate ya yu shvitsate bore boko na ne yame na ni soha de yo ni yo da kuter moro yo Bibochtalo, jajsar me jek farkere djavo, leba chariz murdarava. Sar me jek farkere djavo, jaj leba chariz murdarava. Jaj da la 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 la. Mariska dans Remue Ménage, Onde Femmes Radio Zone 93.8, une gitane qui chantait pour nous Auschwitz, ce moment terrible de l'histoire du peuple tzigane lors de la Deuxième Guerre mondiale. Nous sommes en compagnie de Sophie Barré, co-responsable de la programmation du Festival de films et musique du monde qui a lieu en ce moment et jusqu'au 18 octobre, organisé par le Musée d'ethnographie et l'Atelier d'ethnomusicologie à l'Alhambra à Genève. Tous les jours 20h30, nous parlerons de ces films d'ici un tout petit instant. Mais j'ai encore quelques questions à poser à Sophie. Sophie qui nous raconte un petit peu tout ce qu'elle sait du monde gitan par le biais de ce qu'elle a elle-même vécu. Sophie, vous disiez que les hommes ont des pailles, c'est-à-dire des amantes ou des maîtresses blanches. En est-il de même pour les femmes ? Est-ce qu'elles peuvent se permettre
ça ? Ah non, 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 absolument pas. Alors ça, c'est absolument tabou.
Est-ce qu'il est non, tout non, aussi tabou de sortir du clan, de quitter le clan pour rentrer dans le monde des gadgets, enfin ?
Il y a très peu de gitanes qui le font, en fait. Il y en a quelques-unes qui le font, mais c'est plus souvent des gitans qui épousent des pailles. C'est beaucoup plus souvent ce cas-là.
Et elles viennent vivre dans le camp ou c'est le gitan qui va vivre dans le monde des gadgets ? Comment ça se passe, l'échange entre les deux ?
Alors là, tout dépend de la mentalité du couple, de l'homme ou de la femme. Bon, si elle aime cette vie nomade, un peu aventureuse, qui a beaucoup de charme finalement, moi personnellement j'adore ça. Mais alors je pense qu'elle ira vivre un peu avec lui dans le camp. Mais sinon, si elle préfère son confort et puis vivre sans avoir... Parce que bon, il faut comprendre que quand on vit dans un camp, on ne vit pas seul. Hein, on vit avec toute la famille et il faut la supporter. Ce n'est pas toujours facile. Ça veut dire des disputes, ça veut dire des corvées à faire pour celui-ci, celle-ci ou celle-là. Et ce n'est pas la vie de couple à deux où on peut être vraiment en amoureux tranquille. Pas du tout. Et bon, ça, c'est un peu au couple de décider quel genre de vie il peut avoir. Mais je pense qu'il a le choix entre les deux options.
Est-ce qu'aujourd'hui, ça se fait beaucoup que les gitans quittent, on dit le clan, c'est, ou la famille, comment on dit,
oui, la famille,
le clan,
oui.
Pour aller s'installer dans le monde des Blancs, dans ce mouvement que peut-être les autorités aussi des divers pays qui ont vu passer les gitans sur leur territoire ont tenté de faire, c'est-à-dire de sédentariser ce peuple-là?
Disons qu'actuellement, ça se pratique, mais il ne quittera jamais sa famille. Un gitan, pour lui, sa famille, c'est vraiment ce qu'il a de plus important. Et il ne pourra jamais quitter absolument sa famille. Il ira peut-être vivre avec sa femme en appartement, mais il le choisira tout près de l'appartement ou de l'endroit où la famille réside. Parce qu'il a besoin de les voir tous les jours. On ne peut pas couper le cordon ombilical. Moi, je connais des gitans qui ont 40, 50 ans et qui sont toujours des enfants pour leur mère. Et ils ne peuvent pas ne pas les voir. C'est absolument primordial pour eux, la famille. Ils ont besoin de ce cercle. Ils ont besoin de se sentir entourés. Justement, peut-être parce qu'il reste en eux cette crainte de la persécution qu'ils ont subie depuis des années et des années, qui s'est accumulée. Ils ont peut-être ça à garder en mémoire. Et je suis toujours étonnée quand je les vois se déplacer d'un endroit à l'autre. Ils ne vont jamais seuls. Ils ont toujours deux ou trois, un cousin, un frère, pour aller chercher du pain, pour aller chercher des cigarettes, pour aller faire une course. Ils n'y vont jamais seuls. Il faut toujours qu'il y ait toujours une ou deux personnes avec eux. Et ça, c'est l'instinct de protection, parce qu'ils sont une minorité et ils ont besoin de se sentir entourés et protégés. C'est rester instinctif.
Et aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait pousser un gitan à se sédentariser de lui-même si on ne l'y contraint pas? Parce que quand même, ça se fait, hélas, de plus en plus, je suppose.
Oui, je pense
qu'en
fait...
Enfin, hélas, je ne sais pas s'il faut dire hélas. Est-ce que c'est contre leur volonté, malgré tout?
Non, je ne pense pas que ce soit contre leur volonté. Bon, il y en a qui ont gardé l'esprit d'indépendance et du voyage, mais il y en a d'autres qui... Il y a certains caractères qui sont plus calmes et qui apprécient quand même une maison confortable. Ça, je pense que c'est le confort, la télévision, ils sont fous avec la télévision. Ils dorment avec la télévision, ils vivent toute la journée, la télévision est allumée. Et ça, c'est très spécial à ces gens. Et si vous leur éteignez la télévision, ils se réveillent.
Mon Dieu, ils ont quand même vécu des siècles sans télévision.
Oui.
Qu'est-ce qui remplaçait la télévision avant, la musique?
La musique et, je pense, les palabres. Ils discutaient énormément entre eux autour du feu. Ça durait des heures et des heures, justement, les échanges. Et maintenant, comme ils n'ont plus ça, alors ils ont besoin de ce contact, de cet apport que la télévision leur donne. Et ils ont l'impression de se sentir moins seuls. Alors, justement, quand ils sont seuls chez eux, en couple, ils ont la télévision tout le temps.
Donc quand vous dites ils n'ont plus ça, pour ceux qui se sont sédentarisés.
Voilà, exactement. Sinon, les autres, ils ont toujours ces réunions, surtout l'été, on voit toujours ces grands feux où ils viennent tous s'asseoir, ils font le méchoui, ils font griller l'agneau, ils font la cuisine tous ensemble, et c'est sûr que c'est très sympathique.
Aujourd'hui, être nomade gitan en France, Sophie, puisque c'est de ça que vous nous parlez surtout, est-ce que c'est encore une situation très précaire? Est-ce que c'est encore être persécuté, menacé, renvoyé, rejeté, enfin...
Bon, plus comme il y a 20 ou 30 ans ou 40 ans en arrière. Mais parce que maintenant, la plupart des villages ou des villes ont quand même aménagé des espaces pour les accueillir. Mais il y a encore des endroits où ils ne peuvent pas séjourner. On ne les pourchasse plus. Bon, à partir du moment où ils volent, c'est évident qu'il faut qu'ils s'attendent à être poursuivis par les gendarmes. C'est évident. Mais ça n'est plus systématique. Il y a quand même une reconnaissance maintenant de ces gens-là. Bon, je pense que la musique a fait beaucoup pour eux. Les Gypsy Kings, Vanitas, a fait connaître un peu ces gens qui n'étaient pas tellement connus, en fait, de tout le monde. Il y avait beaucoup de gens qui ignoraient et qui vivaient sur des ondis. Le fait qu'il y ait eu ces Gypsy Kings et Vanitas, et Paco de Lucia, évidemment, qui est aussi gitan, qui est très connu au point de vue musicien, je pense qu'ils ont fait beaucoup pour la cause gitane, parce qu'on a vu que finalement, finalement que c'était pas des loups-garous et que c'était des gens comme tout le monde et qu'ils pouvaient être très gentils si on les respectait et si on se mettait un petit peu à s'intéresser à eux.
Mais ils ont un statut particulier par rapport aux institutions françaises, par exemple ?
Les nomades, ils ont des cartes d'identité comme tout le monde et ils ont un statut de nomade, oui. Ils ont tout à fait un statut de nomade. Ils sont autorisés à changer d'endroit et ils doivent s'annoncer à la mairie. Normalement, quand ils arrivent dans une ville ou dans un village, ils doivent s'annoncer à la police, à la mairie.
Et vous me disiez, le gouvernement français les aide ?
Certains, oui, parce que bon, certains sont mentalement pas toujours capables de travailler, ou malades, ou estropiés, parce que bon, ils ont eu quelquefois des enfances difficiles, des vies difficiles, et ils ont quelquefois une main, une jambe, un bras en moins, et au point de vue QI, disons, ils n'ont pas toujours la possibilité d'avoir l'intelligence, ils ne savent pas lire, il y en a beaucoup qui sont encore illettrés, ils ne savent pas lire ni compter, donc ça les exclut de tout travail. Intelligents, disons, ils peuvent faire des choses comme ramasser les poubelles, la voirie, des choses comme ça, des choses toutes simples. Mais bon, une fois que ces postes-là sont pris, les autres, c'est très difficile pour eux de trouver du travail. Alors bon, pour ne pas les laisser mourir de faim et puis éviter qu'ils volent, finalement, les municipalités ont voté des crédits pour les aider. Ils reçoivent une petite allocation comme un RMI, en fait.
Çiçekçi geldi, çiçekçi.